Là, on est chez Dior.
Le sac est à 3060 euros.
Un sac ?
Et 6000 et quelques pour la robe. 5500.
Quand les banlieusards descendent sur les Champs-Élysées, vous avez généralement le droit à des reportages sensationnels du genre enquête exclusive. Vous les avez tous en tête, ces clichés, avec tous ces jeunes du 93 qui fondent sur les beaux quartiers. Sauf que là, c'est le monde à l'envers. Une bande de jeunes diplômés de Seine-Saint-Denis qui, d'habituel sujet d'enquête, en deviennent les acteurs. Ce sont eux qui enquêtent aujourd'hui avec leur professeur Nicolas Jounin. À peine 20 minutes de métro, sépare l'université de Saint-Denis, dans un des quartiers les plus pauvres de France, de la station Champs-Élysées-Clémenceau, un des quartiers les plus riches. Et c'est au tour des habitants de ce quartier bourgeois de devenir les sujets d'études. Ce sont eux, les indigènes. Mais pour apprendre la sociologie en la pratiquant, ces étudiants ont dû apprendre aussi à dompter l'exotisme de la situation, à encaisser le mépris de classe et le rappel à l'ordre social. Pas facile, quand on est en bas, de toiser ceux d'en haut.
Eh bien, il nous reste maintenant, je crois, à gagner nos quartiers. Nous allons partir maintenant à la découverte du 8e arrondissement.
Avec ce fier blason se présente à nous le 8e arrondissement. Joyau de notre capitale, ensemble unique au monde, que personne ne saurait voir sans émotion, après l'avoir contemplé.
Le Triangle d'Or, quartier des affaires, de la finance et du luxe de Paris, est délimité par les Champs-Élysées, l'avenue Georges V et l'avenue Montaigne.
Et tout ça va être, disons, la première étape de notre voyage de classe, Nicolas Jounin. C'est le nom de votre bouquin, qui consiste à faire un livre sur une enquête sociologique menée par des élèves de sociologie qui, eux, viennent du 93 et ils sont avec nous de l'université de Saint-Denis, Paris 8, où vous enseignez, Nicolas Jounin. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'on vient faire ici et où on est déjà ?
Donc on est en plein cœur du 8e arrondissement, près des Champs-Élysées, mais un petit peu en dessous, c'est un peu plus chic que les Champs-Élysées, puisque du point de vue des habitants du quartier, les Champs-Élysées, c'est quand même un peu le lieu où tous les banlieusards se retrouvent le vendredi et le samedi soir. Mais là, on est un peu au sud, on va vers l'avenue Montaigne, là où il y a les grandes boutiques de luxe. Et donc, on refait un petit peu ce parcours de découverte de ce quartier, de cet arrondissement, et pour refaire cette enquête où donc des étudiants de sociologie, ils découvrent la matière. Pour découvrir la matière, petit exercice de terrain. Pour faire du terrain, il faut aller voir des trucs un petit peu exotiques. Et là, il se trouve qu'on est à une demi-heure de Saint-Denis en métro et qu'on voit des quartiers tout à fait différents, avec des gens complètement différents, avec des comportements, des coutumes, des manières de s'habiller extrêmement différents. Donc c'est très intéressant à étudier.
Clairement, ici, on est sur les terres de la classe dominante.
Oui, tout à fait, on est sur les terres de la classe dominante, c'est-à-dire à la fois les gens qui ont les moyens, les ressources économiques, matérielles, de vivre très confortablement.
Je crois que vous notez le revenu moyen ici par foyer, c'est 82 000 euros par an. Dans la France en général, c'est 25 000 et à Saint-Denis, c'est 16 000. Donc voilà, on est vraiment aux deux côtés de l'échelle.
Et c'est pas juste pour découvrir quelque chose d'étranger, quelque chose d'exotique. C'est parce qu'il y a des milliards de fils qui relient ces territoires qu'on ne connaît pas à notre propre existence.
Alors on est où là, Nicolas Jounin ? Par où on pourrait aller ?
Par là-bas, on va arriver sur l'avenue Montaigne en allant tout droit.
Ah oui, très bien. Bon, alors on fait les présentations alors.
Bonjour, Abigail Chekoura, donc en deuxième année de licence sociologique.
Donc Yasmina, j'ai fait un an de sociologie à Paris 8.
Bonjour, je m'appelle Assia, je suis étudiante en double licence de littérature et de sociologie.
Alors moi, c'est Nejma Konias.
Bonjour, Jordan Mongognon, alors j'ai 23 ans, là je suis en master 1 de sociologie.
L'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Plusieurs milliers de personnes s'y retrouvent tous les jours.
Nous avons des petits délinquants qui viennent beaucoup de banlieues, des cités difficiles de banlieue. C'est vrai qu'avec les facilités de transport en région parisienne, ils ont la possibilité, entre guillemets, de se payer les Champs-Élysées pour 20 minutes de RER.
Voilà, on arrive à l'avenue Montaigne, la célèbre avenue Montaigne.
Bah, y a beaucoup de boutiques de luxe. Là, y a quoi ? Y a Dior, y a Nina Ricci, bon, voilà, c'est des grandes enseignes.
Et Louis Vuitton en face.
Je crois que là-bas, c'est le Plaza.
Ah bah, allons vers le Plaza, c'est ton terrain d'études, ça,
ouais,
non ?
C'est le Plaza Athénée, ouais.
Alors, c'est quoi, justement, les petites feuilles de route en termes de méthodologie ? Qu'est-ce que vous leur avez dit de faire ? Parce que c'était dans le cadre d'initiation à la sociologie en terrain.
C'était baladez-vous dans le quartier et faites-nous une sorte de note d'ambiance, comme on dit chez les RG. La deuxième fois, c'était choisissez un endroit, arrêtez-vous pendant une heure et décrivez ce qui se passe.
Alors là, il y en a qui sont allés au parc Monceau, d'autres ici avenue Montaigne, d'autres dans des restaurants chics.
Voilà, exactement. Avec en plus chacun amenant sa propre personnalité et avec des étudiants qui étaient beaucoup plus audacieux que moi. Moi, aller au Plaza Otané, quand j'ai fait mes repérages, j'ai pas osé. Je suis resté un peu bêtement, un peu timidement en me disant j'y vais pas. Puis voilà, y a des étudiants qui font, qui vont à l'intérieur et qui me racontent ce qui se passe dedans, c'est génial.
Le Plaza Athénée, situé avenue Montaigne, lieu emblématique du chic parisien, il est l'unique palace à avoir obtenu le label Entreprise du patrimoine vivant pour sa gastronomie.
Alors du coup, là on est devant le Plaza Athénée, toujours avenue Montaigne, et c'est là où tu as fait ton terrain.
Ouais, donc on avait une session qui consistait à rester une heure dans le quartier à faire de l'observation. Dans un même lieu et à noter minute par minute quasi ce qui se passait. Donc on était trois et il se trouve que quand on est rentré dans le restaurant était quasiment vide. On nous a installés au fin fond d'une alcôve, on est passé devant plein de tables en se disant où est-ce qu'ils vont nous placer, c'est pas possible. On nous a installés vraiment au fin fond de la galerie, dans une alcôve, invisible des autres, totalement irréel. Donc on a fait notre observation, mais même avec l'envie de vouloir se dire que ces barrières-là, moi, je me les mets pas. Au final, on n'a pas osé changer de table, alors que l'observation, pour nous, ça voulait dire aussi regarder ce qui se passe autour. J'ai même pas osé aller fumer. J'ai même pas osé aller aux toilettes. Enfin, voilà, on nous a installés dans un endroit. On nous a autorisés à être là. Et on s'est dit que, voilà, on n'avait plus à bouger. On nous avait autorisés ici, mais pas plus, quoi. Donc, c'est vrai que ça a été assez violent. Et puis, surtout, la sortie. Parce que, en fait, quand on est sorti, parce qu'on a dû traverser la galerie en sens inverse, les conversations se sont arrêtées. Tout le monde nous a regardés. Qui sont ces gens? Que font-ils ici? Donc, voilà, on ne savait pas qu'on allait boire un café au Plaza Athénée. On était en jean, on était voilà, en tenue d'étudiante classique avec des trous, un t-shirt du PSG. Enfin, voilà.
Ah oui, quand même.
On ne connaît pas du tout. Du tout. Voilà. On avait juste envie de courir, de finir les derniers mètres et de rentrer chez nous, quoi.
Après, des fois, quelquefois, on osait un petit peu rentrer. Et pour nous, c'était quand même un peu l'exploit de rentrer comme ça.
D'entrer où?
Bah, dans les boutiques Gucci, Louis Vuitton, Dior. Bah, après, des fois, ça devenait.
J'ai réussi,
même...
quoi. J'ai mis les
pieds. Voilà, c'était un peu.
J'ai passé le vigile. Ce qui fait... C'est vrai que ça ressemble un peu à une entrée de boîte de nuit, quoi. Avec le gars, il dit, ah, ça va pas être possible, monsieur.
Bah, c'est vrai que. En fait, on a tendance à penser qu'on va se faire refouler, alors pas du tout. Ouais. On rentre et on a l'impression que tout le monde va avoir les. Enfin, moi, à chaque fois, je rentrais dedans, je chantais un truc. J'arrivais pas à le décrire. Mais. Une sorte d'oppression et vraiment je me sentais...
Chez Gucci, chez Armani, voilà. Chez Vuitton, alors que tout est fait pour sentir bien et consommer d'une manière insouciante.
Si, il nuovo profumo, Giorgio Armani.
Bon, la glace est à 7€ la triple. Alors là, on change petit à petit, on quitte le quartier de la mode et des boutiques de luxe que tout le monde connaît. Objectivement, on a les mêmes partout dans le monde, dans tous les aéroports maintenant, que ce soit sur la 5e avenue à New York ou à Tokyo. On a les mêmes boutiques, les mêmes vendeurs, les mêmes vitrines. C'est-à-dire une espèce d'uniformisation.
Oui, bah, certains touristes à un niveau moins élevé se réjouissent de retrouver un McDo partout ailleurs. Bah, là, on a une classe sociale qui est très contente, effectivement, de dire, comme une des personnes qu'on a interviewées, je suis avenue Montaigne partout. Là, bah oui, je suis 5e avenue, je retrouve mon Louis Vuitton, mon Prada, mon Dior et mon Chanel. Les gens qui habitent là, pour la plupart d'entre eux, ont choisi d'habiter là. C'est pas comme à Saint-Denis où beaucoup de gens, par exemple, sont dans des logements sociaux. Là, on a une forme de ségrégation, mais moins forte en réalité que ce qu'on observe ici, puisque Saint-Denis est beaucoup plus diversifié socialement et beaucoup plus proche, en tout cas, de la moyenne française que ce quartier ou que Neuilly-sur-Seine, par exemple.
Le vrai ghetto, c'est ici, en fait.
Ah, le vrai ghetto, si on appelle ghetto l'agrégation d'individus semblables socialement, c'est ici, oui.
La ville de Paris décorera l'avenue Montaigne à grande brassée de jardinières. Certains, bien sûr, crieront à l'inégalité. Les responsables de la capitale pensent, eux, que ce lieu mérite une attention particulière pour savoir si bien attirer les touristes fortunés et les devises étrangères.
Sur cette avenue-là, je sais qu'un certain nombre d'étudiantes qui étaient voilées, et certaines pouvaient craindre de venir dans ce quartier qu'elles ne connaissaient pas forcément bien. Voilà, on est en plein centre de Paris, donc côté de l'Elysée, à côté de Matignon, etc. On serait en quelque sorte en plein centre de cette république française qui fait du voile un problème.
Voilà, c'est centre un sujet très crispant, voilà. À gauche comme à droite.
Eh bien, avenue Montaigne, on est beaucoup plus cool, puisqu'on a un certain nombre de clientes qui viennent du Moyen-Orient, qui portent le voile et qui sont très bien reçues. Donc le voile n'apparaît pas du tout comme un signe négatif, alors qu'il cristallise des conflits pas possibles dans le 93 dans l'institution scolaire. Ici, c'est vraiment un non-problème et je pense que c'est la seule fois que certaines étudiantes ont reçu des compliments sur leur voile.
Je te coupe deux secondes parce que là, on passe devant une boutique et il y a la queue. Il y a des tonnes de gens qui font la queue. C'est une boutique de rationnement,
c'est quoi? Donc là, c'est la banque alimentaire du 8e arrondissement.
Ouais. C'est Louboutin.
Louboutin.
Une marque de chaussures. Une marque de chaussures très connue avec le dessous de semelle rouge.
Et c'est vrai qu'il y a des dames avec le hijab qui font la queue à côté des dames en bustier décolleté.
Ça, c'est les riches Qataris, ça. Il y en a beaucoup dans le quartier qui ont acheté des hôtels particuliers.
C'est drôle parce que ils font la queue vraiment comme une soirée au Resto du Cœur, quoi.
Ouais. Ouais, et pourtant, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir.
Ils sont fous. Ils sont fous parce que rien qu'à voir les prix qui sont affichés en vitrine. Moi, je suis à deux doigts, tout le monde allait pas mal.
C'est combien les chaussures? J'ai même pas regardé.
Enfin, c'était des sommes à quatre chiffres, quoi. À quatre chiffres pour des chaussures.
Mais c'est trois fois plus cher que mon loyer, quoi.
Bah, moi, je trouve ça abusé. Déjà, de mettre ces prix-là et de voir des gens qui attendent pour ça, quoi.
Et en plus, ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont l'air contents de faire la queue. Ils sont contents d'être là, d'en être.
Ils sont pas comme nous, ces gens-là.
Il y a un moment où ça devient le rire. Donc là, on peut rigoler de cette robe qui est dans une vitrine de la boutique Moschino. C'est Bob l'éponge, quoi. C'est des biscuits apéritifs sur une grande robe à la Barbie. Et là aussi, c'est des tarifs à plusieurs zéros. Il y a un moment où c'est drôle et on se moque. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça devient presque blessant, quoi, ça devient injuste?
L'égalité des chances n'est pas la même partout, quoi. Surtout ici. On le sait, on sait qu'ils ont bien plus de chances d'y arriver et d'accéder à des postes placés, alors que nous, on est censé se battre bien plus que ça pour arriver au même niveau, et encore, c'est pas gagné, quoi. Et pour vivre tout court, ouais.
C'est ça.
Après, moi, je trouve que c'est quand même plus valorisant de se battre pour arriver à garder sa place plutôt que d'être en haut de l'échelle juste parce que papa, maman nous aident ou quoi que ce soit. Ouais. Ça, pour moi, ça vaut pas le coup d'être en haut s'il n'y a pas de bataille.
La R-U-M-E-U-R, la rumeur, je suis une bande ethnique à moi tout seul. Une invasion mort, berbère ou peul, un péril coranique à moi tout seul. La rumeur, les réprouvés du jour, écoute ce bruit qui court. Quand des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers, ils sont une bande ethnique à eux tout seul. Écoute ce bruit qui court, entre l'avenue Montaigne et l'Elysée. Ils racontent ce qu'ils ont appris sur les autochtones. Mais surtout, ils expriment le poids de la domination sociale dans les regards. Écoute ce bruit qui court, ils sont une bande ethnique à eux tout seuls. Écoute ce bruit qui court, quand des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers. Écoute ce bruit qui court, ils expriment le plaisir de renverser les rôles avec leur savoir. Les journaux disent vrai, les philosophes aussi. Je suis l'ennemi juré du rayonnement de la francophilie. J'héberge trois tribus Maasai sous mon lit, dont les mioches ont appris à fondre sur Paris. À l'arrivée des beaux jours pour fêter le printemps, aux premières manifs d'étudiants j'accours. Méfiez-vous de mes enfants, on les a exclus du ciel. Et comme les anges, les démons ont des ailes. Je suis une bande ethnique à moi tout seul. C'est écrit sur ma gueule. Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon? Toujours à 40 000. Quand les rats sortent des bidonvilles avec des bidons d'huile. Ces trois équipes de télé tout au plus, caméra au point, qui m'attendent à l'arrêt de bus. Qui sont les vrais stars du JT? Les gentils condés ou les grands méchants noirs? Il va falloir se décider, car mon casier judiciaire a horreur du vide. Un peu comme moi d'ailleurs, qu'y a-t-il de bizarroïde? Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Putain, c'est écrit sur ma gueule. Un cordon sanitaire dressé autour de mon CV. Et ouais, y'a de quoi s'énerver.
Bon, tout le monde est à la fenêtre là, c'est bizarre.
Il y a eu un accident, je crois, je sais pas.
Ah.
Ouais, je sais pas.
Voilà, on peut voir, là, c'est marrant parce que du coup, il y a eu un petit accident dans la rue et tous les habitants de l'immeuble sont sortis à leur fenêtre. Il y a une dame avec un hijab, il y a un monsieur avec une barbichette, il y a des jeunes cadres dynamiques qui sont dans un bureau.
Oui, c'est plus chemise bleue par là-bas.
Voilà. Et là, il y a des messieurs qui ressemblent à des voituriers d'hôtel chic. Le Saint Régis, hôtel 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. En fait, le gars, il est carrément... Il a encastré sa BM.
Là, il faut qu'on m'explique cet accident parce que...
Il est très particulier.
C'est un monsieur en costume,
oui.
Chic, qui a une voiture très chic, genre une grosse Mercedes, mm-hmm. qui s'est encastré sur le trottoir dans une petite Smart. Et les deux messieurs se serrent la main sans aucune animosité apparente, alors qu'il y a deux agents de police.
Un bon sujet d'observation, ça.
Effectivement, peut-être que dans un autre quartier, l'animosité aurait été présente. Là, elle est plus calme. Il a l'air d'avoir envie d'avoir quand même une conversation et des explications pour que ça se règle en douceur et facilement. Donc effectivement, est-ce que le quartier joue encore une fois ?
Il doit avoir des bonnes assurances.
Exactement, voilà. C'est ce que je pensais en plus. Voilà. C'est bon, il y a l'assurance tout risque, c'est bon.
L'avenue Montaigne illuminée peut être plus qu'une autre, il y a bien des raisons à cela. Cette artère du 8e arrondissement est connue dans le monde entier. C'est un haut lieu du rendez-vous international et les couturiers, les joailliers.
Cette artère prestigieuse nous plonge sans rémission dans le beau. Possesseur de la carte Gold, ce musée du luxe à ciel ouvert vous ouvre les bras.
Alors, on arrive où là ?
Le village royal.
On est devant le village royal. Alors ça, c'était aussi un des terrains d'études. C'est un petit passage qui, si je me trompe, amène... du côté Saint-Honoré vers le côté
rue Royale,
c'est-à-dire la place de la Madeleine, et là aussi un autre coin du 8e. On avance. Tu nous montres comment tu as fait ton terrain, Assia, là. Parce que là, on est sur ton domaine. Tu nous sers de guide.
On est arrivé tout simplement avec mon binôme pour se poser au café qui est juste devant nous. Et ce qui était marrant, c'est qu'on a eu une petite expérience avec nos voisines de table qui n'arrêtaient pas de nous jauger depuis le départ. Et du coup, à force de nous voir prendre des notes, on demande à mon binôme ce qu'on fait. Donc, il a dit qu'on est des étudiants en sociologie qui faisaient une enquête sur les quartiers bourgeois. Dès lors qu'il leur a dit ça, leur comportement a changé parce qu'ils se sont mis à nous parler en disant « Tiens, c'est intéressant, la sociologie, il y a plein de choses à dire sur les bourgeois et tout. » Et ils avaient commandé, nous, on était là avec notre café à 4 euros qui, pour nous, était déjà trop cher. Et j'étais là pour prendre un dessert à 16 euros et pour elle, c'était normal. Et à un moment donné, du coup, quand il leur a dit ça, il a dit « Tenez, vous voulez qu'on partage ?» Nous, on a dit « Non, enfin, on vous laisse manger tranquillement, quoi, on n'avait pas. » »«
Mangez-le, votre gâteau.
» C'était presque ça. Et ils nous ont forcé, elles ont coupé un bout de gâteau qu'elles nous ont donné. Et, juste avant, ils nous ont donné quand même un petit cours d'élégance en nous disant « Regardez comment on coupe un millefeuille.
» Ah ouais, donc vous avez été un peu initié à l'art de la découpe du millefeuille.
On a été un petit peu initié. Donc après ça, ils nous ont laissé goûter, ils nous ont dit « Alors, vous voyez qu'il est bon, hein. Vous savez que les bourgeois, non, c'est vif quand même. » Des petits critiques comme ça. Donc nous, on mangeait ça, notre gâteau, hyper gêné, parce qu'on était quand même hyper mal à l'aise par la situation. Et au bout d'un moment, je lui dis « C'est bon, on s'en va, qu'on ne reste pas une minute de plus. »
Pourquoi ?
Parce que quand on arrive, on était quand même assez gênés par le lieu, avec nos tenues de banlieue qui étaient complètement en décalage avec la manière dont eux étaient habillés, parce qu'on était là en jean, sweat, couleur hyper flashy. Enfin voilà, on n'avait pas les mêmes corps, on n'avait pas les mêmes attitudes et tout. Et ça, on le ressentait aussi, surtout beaucoup avec la part du personnel. On est resté pendant une heure dans le café, à aucun moment le serveur nous a adressé la parole. Enfin, il n'y avait pas un seul mot, quoi. Il y avait un regard presque pratiquement méprisant. Quand il nous a rendu la monnaie, il a pratiquement balancé sur la table. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça, quoi. Donc on sentait qu'on n'était pas les bienvenus.
Et alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit ? On a envie de rétorquer ou on se dit non, ça fait partie de mon enquête, j'encaisse et tant mieux.
On n'avait pas forcément envie de rétorquer tout de suite ou d'entrer dans des conflits ou quoi que ce soit, quoi. Comme on était là pour une raison.
Qu'on l'avait mal servi, qu'elle se sentait mal accueillie et autres. J'ai l'impression que c'est un mécanisme qui est mis en place pour faire comprendre que vous n'êtes pas à votre place. Il y a un moment donné, il faut aussi arrêter de nous frustrer, nous, et de créer justement cette espèce de complication là où il n'y en a pas. On a tous le droit d'être là où on a envie d'être sans avoir à se justifier, sans avoir à démontrer qu'on appartient à telle classe. Ou... Le monde appartient, nous appartient. Faut pas avoir l'impression qu'on n'est pas là où on doit être.
De toute manière, c'est pour ça que le terrain d'enquête a été choisi. C'est parce que c'est justement exotique, quoi. Parce que c'est pas des endroits où on a l'habitude d'aller quand les bourgeois voient les banlieusards arriver. Voilà, c'est.
On est tout de suite dans le cliché.
Ben c'est ça. Mais sauf que ça reste cliché, mais c'est comme ça que ça se passe, quoi. Et nous, on a eu la chance de mener des entretiens avec des riverains. Et le discours revient souvent, quoi. C'est « Ah oui, mais en fait, vous savez vous exprimer ? Ah bah oui, on vient pas de la cambrousse, bah ouais, quoi. Enfin, on est étudiants, on n'est pas des bêtes sauvages. C'est ça qui était drôle à étudier, quoi. »
Qu'on reparte, qu'on les laisse seuls. Ils nous voient, ils s'écartent. Dès qu'on arrive, ils s'agitent vite, tous en fuyant vers leur appart. Quand les banlieues
sortent. Bon bah c'est dommage, y a pas de terrasse de libre pour nous. On aurait pu s'installer, mais.
Non, y a de la place.
Donc on rentre là.
Oui.
Monsieur, bonjour.
À l'intérieur.
À l'intérieur, c'est moins drôle, hein.
Cinq, ça va.
Ça fait que 5, monsieur.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Deux chaises.
Ah, bon, on gêne.
Vous auriez pu coller les tables.
Non, mais.
Vous auriez pu demander à la dame de se décaler.
On bloque le passage. Le monsieur n'avait pas très.
Non, il
n'avait pas envie.
Non,
bien sûr.
Parce
qu'il n'était pas chaud.
Rien que le bonjour, il a continué à marcher. Il ne s'est pas. Il s'est pas retourné.
Ouais, puisque les auditeurs n'ont pas vu, c'est sa moue gênée.
Non, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que là, par exemple, c'est. C'est un peu dit genre avec politesse, alors qu'on sait très bien au fond de lui, le mec il a envie de dire non, et nous on le voit très bien et on sait ce qu'il pense.
Ah mais carrément, faut pas se laisser faire.
Oui, en fait c'est votre intérêt aux uns et aux autres pour la sociologie, j'ai l'impression qu'il y a quand même une motivation politique, mais dans le sens noble de politique, c'est-à-dire la chose publique quoi, la place commune.
Tout à fait, c'est exactement ça, c'est notre combat, notre motivation, enfin... Pour moi et pour mes camarades, c'est un de notre locomotive, en fait, je pense. Donc, effectivement, on se positionne, on se dit, est-ce que finalement, une fois qu'on n'est plus dans nos sentiers, en fait, qu'on n'est plus chez nous, quelle personnalité on a ? Est-ce qu'on... Qui, habituellement, dans nos quartiers, on est plutôt grande gueule, on mâche pas nos mots et autres. Et quand on arrive dans une autre société, dans un autre environnement, et ben on se découvre timide, on se découvre gêné, on se découvre... Donc oui, je pense que c'est vraiment un travail qui... indirectement nous a fait réfléchir sur notre position.
Et c'est là on prend conscience et le soir quand on rentre chez soi on se dit mais on se pose un peu des questions. Moi quand je rentrais chez moi le soir je me disais mais comment on en est arrivé là, comment ça se fait qu'il y ait une aussi grosse séparation entre 30 minutes de trajet entre Saint-Denis et le Triangle d'Or, comment on peut expliquer d'aussi grandes différences? Et c'est vraiment là où on commence à chercher, on commence un peu à lire, à voir. On se dit, ouais, peut-être que s'il y a des pauvres et des riches, c'est parce que c'est voulu. Alors après, on commence à rentrer dans des débats sans fin, mais au moins, on commence à essayer de se questionner. Et je pense que c'est une bonne démarche. Et je pense que c'est là en ça où c'était pertinent ce cours-là, c'était d'avoir une fracture, peut-être qui est brutale, mais au moins, c'est une prise de conscience qui peut au moins... poussé vers l'émancipation.
Du coup, je vais me tourner vers Nicolas Junin, le professeur, qui a coordonné ce travail d'étude de ses élèves. En fait, cet exercice qui fait bien réfléchir, apparemment, vous le recommandez pas que aux étudiants de sociologie, que ça peut être utile à beaucoup de citoyens de sortir de son univers quotidien pour aller voir, essayer de comprendre comment les voisins d'à côté marchent. Raconter aux uns comment vivent les autres.
Oui, bah, l'idée du livre, c'est de donner envie, effectivement, d'aller voir ailleurs, d'enquêter et de donner de l'audace, comme on s'est donné de l'audace collectivement. Moi, j'en ai plus que quand j'ai démarré ce cours. J'espère que c'est pareil pour une partie des étudiants. Donc, c'est essayer de donner envie et de dire n'importe qui peut étudier n'importe qui. Pas toujours du haut vers le bas. Donc, c'est une posture d'égalité dans l'analyse, d'égalité dans la science. De dire, voilà, n'importe qui peut étudier n'importe qui. Ça donne, je pense, j'espère du moins, une vision plus lucide, plus réaliste de la société.
Le truc, c'est qu'il faut s'imposer bien plus quand on vient d'ailleurs.
Ah, mais je suis tout à fait d'accord.
Il faut s'imposer, quoi.
Non, en fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est exactement ce qui est dit dans une musique de Kerry James, c'est Banlieusard, où là, on a tout le côté où, en gros, quand on sait qu'on vient des banlieues, on va devoir en faire tout deux fois plus pour pouvoir combler ces écarts-là, en fait.
Comme un bruit qui court. Même s'il me faut deux fois plus de courage, deux fois plus de rage, car il y a deux fois plus d'obstacles et deux fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura deux fois plus de coups avant de pouvoir la savourer. Je prendrai deux fois plus de coups, les pièges sont nombreux. Il faut que je sois deux fois plus attentif, deux fois plus qualifié, deux fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec, on est condamné à réussir, à franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation.
Pas si facile d'étudier les représentants d'une classe sociale qui domine celle à laquelle on appartient. Donc un grand merci à Nejma, Abigail, Yasmina, Asia et Jordan. Merci à Nicolas Jounin, leur professeur, et son livre « Voyage de classe » aux éditions La Découverte. Et un merci spécial à Amé et La Rumeur pour ce petit cadeau remix à retrouver sur la playlist de l'émission.